J'aimerais lire un passage de l'Écriture qui se trouve dans l'Évangile de Luc. Et je vais faire ce matin quelque chose que je m'interdis de faire en général. Je crois que c'est la première fois que je le fais, que je m'y autorise. Quand j'ai une pensée sur une parole à partager, je regarde d'abord dans mon ordinateur si quand est-ce que j'ai pu aborder tel texte la dernière fois. Et c'est bien pratique, l'ordinateur. Vous ouvrez vos fichiers, vous avez la liste de pratiquement 20 à 30 ans de prédication, et vous avez la date, la fois où vous l'avez prêché à Kevin, éventuellement reprise à Paris ou à Saint-Étienne, et puis le nombre de fois, et puis peut-être 7, 8, 10 ans après, la fois où je me suis autorisé, parce que j'ai un délai de prescription de 7 à 8 ans que je me suis imposé, je me dis au bout de 7 à 8 ans, ils ont oublié. Vous voyez quel regard je porte sur vous, hein ? Je peux. Et là, cette semaine, je préparais pas une prédication. J'étais dans mon bureau. Je passe un grand nombre d'heures dans mon bureau toute la semaine et tous les jours. Et à un moment donné, je suis tombé sur un petit fascicule que j'avais réalisé il y a presque 25 ans. Et puis, quand je l'ai relu, je me suis dit, là, il y a des pistes intéressantes, tout. Et puis, j'ai commencé à rentrer dans le passage que nous allons lire. Et c'est après coup que je me dis, mais au fait, c'est quand la dernière fois où j'ai lu ce texte. Je voudrais juste vérifier une chose. Qui était là le 24 septembre de l'année dernière? Vous pouvez lever la main? Le 24, vous êtes sûr? Non, il faut être sûr. Qui est sûr d'avoir été là le 24 septembre? Personne. Ah ben c'est très bien. Donc c'est je suis sûr que non, un certain nombre d'entre vous étaient là le 24 septembre de l'année dernière, donc ça fait pratiquement un an jour pour jour, et j'avais lu ce même texte, c'est un texte de l'évangile de Luc, un des plus connus de l'évangile de Luc, mais quand je suis rentré à nouveau dans ce texte, eh bien, je me suis dit, il y a des choses nouvelles qui me parlent. Alors si elles m'ont parlé à moi, ça veut dire que je ne vous les ai pas partagées, donc je peux à nouveau relire. Et la parole de Dieu a ceci de merveilleux. Je suis entré dans l'Église il y a, pour la première fois, il y a 51 ans, à peu près, 51 ans et demi. Je me suis converti il y a une cinquantaine d'années, il y a 50 ans. Et depuis que j'ai ces 50 ans de vie avec le Seigneur, la parole de Dieu n'a jamais été une parole qui, à un moment donné, est devenue... Ça y est, j'ai tout compris de la pensée de Dieu, des plans de Dieu pour moi, pour l'Église et pour le monde. Mais chaque jour, cette parole est nouvelle et me parle. Parce que le Saint-Esprit, et on va voir qu'il y est pour beaucoup dans ce que nous vivons, personnellement, individuellement, le Saint-Esprit, chaque jour, a la mission d'éclairer... non seulement notre route, nos chemins, mais aussi d'éclairer la personne de Dieu pour que notre foi grandisse tous les jours. Et si nous nous privons de lire l'Écriture chaque jour, nous nous privons tout simplement de rencontrer Dieu et de découvrir ce qu'il est pour nous, pour l'Église et pour le monde. C'est uniquement ça, c'est seulement ça. Donc, pas de souci si vous ne lisez pas l'Écriture. Vous vous privez de pas grand-chose, hein, voyez. Je vois des sourires. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 25. Dès les premiers mots, vous allez dire, tiens, encore ce texte. Eh bien, oui, encore ce texte, parce qu'il a quelque chose à nous dire. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Bah, fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, mais et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui. Est-ce que tu dépenseras en plus ? Je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Un texte de l'Évangile que vous connaissez, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que nous pouvons découvrir de nouveau ? Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les cours de français et à un moment donné, notre professeur nous a fait travailler pendant plusieurs mois sur Candide de Voltaire. C'est le parcours d'un jeune homme qui cherche à découvrir le sens et la valeur de la vie. Candide, c'est devenu un prénom qui dit plein de choses. Candide, c'est un jeune homme qui appréhende le monde, qui appréhende son parcours de vie, les autres, ceux qui l'entourent. Avec parfois une forme de naïveté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que quelqu'un est candide, c'est-à-dire qu'il n'a pas tous les éléments de jugement pour pouvoir appréhender ce qu'il vit et ce que vivent les autres et ce que sont les autres. Et à la fin du roman, Candide, de retour dans sa ville, dans son quartier, dit simplement, et c'est la morale de quelque part de ce livre, c'est une seule phrase. Il faut cultiver notre jardin. Oh, c'est pas simplement le jardin avec les carottes, les pommes de terre. Non, il faut cultiver notre jardin. C'est-à-dire, quelque part, il s'agit de s'occuper de notre vie et d'y faire pousser tout ce qui a du sens. Et notre mission, c'est de cultiver notre jardin. Alors, j'ai toujours beaucoup aimé. Quand je suis arrivé à la fin du dernier cours où notre professeur nous a dit ça, j'étais dans une situation sociale, familiale, personnelle. Je me dis, mais c'est extraordinaire comme conseil. Finalement, je dois cultiver mon jardin. Il ne s'agit pas de chercher à devenir ceci ou à devenir cela. Il s'agit de cultiver mon jardin et de devenir ce que je suis profondément. Alors ce conseil peut ne pas nous être d'un grand secours, parce qu'on peut se dire, mais finalement, c'est quoi mon jardin ? Il y a des hommes qui prétendent ou qui veulent labourer la terre entière. Et d'autres trouveront qu'un pot de fleurs, c'est déjà beaucoup. Certains disent avec insouciance, après nous, le déluge. Tandis que j'aime beaucoup me rappeler que Charlemagne, quand il était mourant, s'est mis à pleurer parce qu'il voyait les barques des envahisseurs normands. Vous voyez la différence ? Il y a une jeune femme, disait quelqu'un, qui s'irrite parce qu'elle a des souliers percés qui prennent l'eau. Et si je lui dis, qu'importe, pensez à ces millions d'hommes qui meurent de faim au fond de la Chine, Elle me répondrait avec colère, eux, ils sont en Chine. Et c'est mon soulier qui est percé. Puis il y a une autre femme qui pleure sur l'horreur de la famine chinoise. Si je lui dis « Que vous importe, vous n'avez pas faim !» Elle pourrait me regarder avec mépris et me dire « Oui, mais qu'importe mon propre confort au regard de ceux qui souffrent ?» Il est où le jardin à cultiver ? Qu'est-ce qui est à considérer comme mon jardin ? Ce que je dois cultiver ? Qu'est-ce qui est mien ? Et c'est Simone de Beauvoir qui posait cette question. Comment donc savoir ce qui est mien ? Les disciples du Christ demandaient « Qui est mon prochain ?» Elle disait ça dans « La morale de l'ambiguïté », un de ses livres, ouvrages, en 1947. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quel est mon jardin ? Alors, on va pardonner à Simone de Beauvoir, qui n'était pas une spécialiste des évangiles, et qui se trompe en pensant que c'est un disciple qui pose cette question aux disciples. Parce qu'en fait, c'est un opposant qui cherche à se justifier. C'est le mot qui est utilisé dans la lecture de... Il cherche à se justifier lui-même et à embarrasser le Christ. Lorsque le Seigneur le questionne, il répond, et j'ai utilisé un ton dans ma lecture un petit peu religieux, « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ça ne vous rappelle pas des souvenirs à certains qui ont fréquenté certains milieux religieux ? Lorsqu'il répond cela, il le répond comme un docteur de la loi. Il récite, il dit, il répète. Et il répète ce qui forme le commandement considéré comme ultime et total pour un croyant juif. Et ton prochain comme toi-même. Dans sa réponse, le docteur de la loi utilise avec raison, mais sans savoir à quoi il fait référence, le verbe agapesais, du mot agapé, c'est-à-dire, pour parler de l'amour, l'amour aussi bien envers Dieu qu'envers son prochain. C'est cet amour le plus élevé, cette forme la plus élevée, cet amour que Pierre, dans son dernier entretien avec Jésus, dans la fin de l'évangile de Jean, n'arrivera pas à proclamer parce qu'il est rongé par le remords de ses trois trahisons. Mais non, je ne le connais pas. Le docteur de la loi, ignorant de ce qu'il proclame, parlera de cet amour-là et il est fier de savoir ce qu'il faut faire. Dire les choses et être fier de savoir les dire, c'est une chose, mais les vivre. À la question qui est très théorique de ce docteur de la loi, « Qui est mon prochain ?» Jésus répond par un de ses récits dont il a le secret, une parabole où chaque mot, chaque attitude, chaque situation parle tout aussi bien de son amour à lui pour nous que de notre amour pour notre prochain. En fait, beaucoup d'interprétations de la parabole du bon samaritain peuvent se lire de ces deux manières, disent certains. Le samaritain, c'est à la fois nous, vis-à-vis de l'autre qui est en souffrance, mais c'est aussi Jésus vis-à-vis de nous, vis-à-vis de tous ceux qui sont en souffrance. Il y a un sociologue qui s'appelle Luc Boltanski, qui est issu d'une famille juive, et qui, parlant de ce texte-là, disait qu'il n'était pas nécessaire d'être croyant pour lire cette parabole, mais d'avoir seulement l'esprit et le cœur ouvert pour trouver cette parabole éclairante, stimulante, en l'appelant une parabole profane, c'est-à-dire une parabole valable pour le monde entier, croyant ou non croyant. Quand j'ai lu ce commentaire de Luc Boltanski, qui est vraiment un des plus grands sociologues, un élève de Pierre Bourdieu, il est né en 1940, c'est un petit détail, mais il est devenu un des piliers de la sociologie du XXe siècle en France. En fait, il avait un père qui était médecin. Et le père de Luc Boltanski, il était juif. Toute la famille de Luc Boltanski était d'origine juive. Et son père, un jour, il a fait une chose étonnante, il s'est converti à Christ. Juste avant la guerre, il s'est converti à Christ. Et suite à cela, compte tenu des de la guerre qui s'est déclenchée, des Allemands qui étaient dans la région, eh bien, il a dû passer toute la guerre enfermé dans un réduit caché sous le plancher de l'appartement familial. Luc Boltanski, finalement, est né en 1940. Les premières années de sa vie, il n'a vu son père que par épisode et constamment retourné dans ce réduit pour cacher et ne pas être enlevé par les Allemands. Je ne doute pas que le père de Luc Boltanski, comme croyant, ait trouvé cette parabole autrement que profane, mais comme la révélation d'un Christ qui lui a apporté et la lumière et la stimulation nécessaire pour sa foi, pour le rencontrer et vivre avec lui. Mais revenons à notre récit. Ce récit, cette histoire, parce qu'il y a bien d'une histoire, c'est pas quelque chose qui est arrivé. Jésus dit, voilà, je vais te raconter quelque chose à ce docteur de la loi. Il s'agit d'un de ces faits divers de l'époque dont les médias d'aujourd'hui, ça passerait sur BFM, ça passerait en boucle et on nous dirait, oh, un homme attaqué par des bandits sur la route de Jérusalem à Jéricho. Il a été battu à mort, abandonné sur le bord de la route. Nous avons un journaliste qui est sur place et qui va vous raconter ce récit de cette mésaventure. On ne sait rien de cet homme. Mais il y a des caméras de surveillance qui ont montré que plusieurs personnes sont passées à proximité sans lui porter secours. Un vrai scandale! Quelle époque vivons-nous? Moi, je vois bien BFM. Ah, ça serait chouette que BFM TV fasse le reportage du Bon Samaritain et de ce récit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Vous savez, quand on parle de la route de Jérusalem à Jéricho, nous, on y voit deux villes. Une, point de départ, une ville d'arrivée. En fait, dans l'esprit d'un auditeur de Jésus, cette mention géographique génère une représentation vraiment très particulière. C'est une route qui a pour origine le point de départ Jérusalem, c'est-à-dire la ville sainte, là où Dieu a choisi de résider au milieu des hommes, et Jéricho. La ville connue comme la plus ancienne ville du monde. Si vous allez à Jéricho, aujourd'hui ça porte un autre nom, mais si vous allez à Jéricho, à l'entrée de la ville, il y a la ville la plus ancienne du monde. Et c'est vrai qu'elle a plusieurs milliers d'années d'existence. Donc elle se proclame, on l'a proclamée aussi souvent, la plus vieille ville de l'histoire de l'humanité. Oh. Et c'est aussi la ville qui est la plus basse sur Terre. Une ville qui est à moins de 140 mètres au-dessous du niveau de la mer. Alors, on part de Jérusalem, la ville sainte, là où Dieu, dans le temple, habite au milieu des hommes, et on va au plus profond de l'humanité. Moi, j'imagine que quand Jésus a commencé à parler au docteur de la loi, à lui dire, je vais te raconter, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem et qui allait à Jéricho. On dirait presque le jet de Usain Bolt. Jérusalem, Jéricho. Ouais. Une manière de dire, de là où habite Dieu, de la présence de Dieu jusqu'au plus profond, au plus bas de l'humanité. Ce Samaritain, imaginé par Jésus, pour parler de l'amour pour celui qui a besoin d'être sauvé, qui emprunte la même route et vient au secours d'un homme condamné à la mort, n'est-il pas aussi une illustration de celui qui est en train de raconter cette parabole, Jésus, dont il est dit qu'il était celui dont la condition était celle de Dieu, dans les hauteurs spirituelles, dans les lieux spirituels, et qui n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Il est parti des hauteurs très élevé pour aller au plus profond de l'humanité. C'est le texte que nous trouvons écrit par Paul dans Philippiens 2:6. Il est venu marcher sur notre chemin. Il nous a rejoints dans notre misère, comme le Samaritain l'a fait. Il est venu nous rencontrer dans notre vie meurtrie par le péché. Et avant qu'il ne nous rencontre, nous aussi, nous descendions vers les profondeurs les plus sombres de l'existence. N'est-ce pas cela qu'a été notre chemin avant qu'il ne vienne nous rencontrer, qu'il ne s'arrête à nos côtés et qu'il ne nous sauve. Heureusement, la parole dit que par hasard, les hommes sont passés. Par hasard, un sacrificateur. Par hasard. Waouh. Certainement que ces trois hommes, eux, ont pensé que c'est le hasard qui met cet homme à l'agonie sur leur chemin. C'est par hasard, bien évidemment, que nous, sur notre chemin, là où nous étions, le Seigneur est passé et nous a... C'est purement par hasard. Qu'est-ce qu'on a eu comme chance ? C'est dans une des traductions, je ne sais pas si dans la vôtre c'est ça, une des traductions c'est « par coïncidence ». Et une autre traduction qui peut être jouable, c'est « par chance ». Ah ouais, on se dit, oui, ouais, pour le gars qui était sur le bord du chemin en train de mourir, ouais, c'est un coup de chance. Hein. On peut se dire, bah, est-ce que c'est comme ça aussi que Dieu nous a rencontrés ? Un coup de chance ? Ah, par hasard, disons. Ah, si je n'avais pas été au bon endroit, au bon moment et qu'il m'ait rencontré, qu'est-ce qu'aurait été ma vie ? Le mot « hasard », « sug curia », ça dit plutôt une rencontre fortuite. C'est aussi une forme de hasard. C'est André Chouraki qui utilise le terme de coïncidence, c'est-à-dire un concours de circonstances. Tout s'est mis en place pour que. Des faits qui se télescopent sans préparation aucune. Vous y croyez à ça ? Hein ? N'oublions pas que ce récit, c'est un récit construit et fabriqué. C'est Jésus qui invente l'histoire. Il ne raconte pas une histoire qui s'est passée. Il raconte, il met en scène des personnages dans, voilà, imaginaires, mais il les raconte de manière à ce que chaque élément dise quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que pour parler de l'amour qui se met en action, il introduit quelque chose qui serait de l'ordre du hasard et de la coïncidence. Mais est-ce que le hasard existe vraiment ? Est-ce que nous pouvons imaginer que nos existences seraient tributaires de forces aléatoires sans aucune cohérence ? Il y a un grand savant qui est connu, on a beaucoup ou écouté ou lu, qui s'appelait Serge Tarasenko et qui est décédé l'année dernière. Alors, pour beaucoup, peut-être que le nom de Serge Tarasenko ne vous est pas très familier. C'est un des plus grands savants qui a travaillé dans l'énergie nucléaire. Il a été un des pionniers à travailler en France d'origine ukrainienne et balte. Et il a travaillé dans le monde de l'atome, etc. C'est lui qui a élaboré ou conçu les premières centrales nucléaires. On en pense qu'on en veut, mais il a travaillé vraiment dans un secteur très, très pointu. Il est à la base aussi du programme Ariane, avec d'autres, hein, bien évidemment. Mais c'est donc une tête. Et cet homme-là disait dans une intervention, vous pouvez lire et écouter des interventions de Serge Tarasenko, qui était cette dimension d'homme au niveau des connaissances scientifiques, mais qui était aussi un croyant profondément convaincu du Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre. Wow. Alors c'est vrai que quand vous avez un homme comme ça qui vous explique qu'il sait expliquer ce que c'est que l'atome, etc., et qu'en même temps, il dit, wow, la force qui permet à l'atome de se tenir ensemble avec les différentes composantes, les protons, les neutrons, je ne sais pas moi trop de quoi je parle en ce moment, mais il disait, cette force-là, c'est la puissance de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. Et quand il parlait du hasard, j'avais entendu une intervention, il disait, vous savez, le hasard, dans la création de l'homme, on va prendre juste cette petite chose qu'est l'homme, hein, l'individu, le corps de l'homme. Donc il y a un médecin dans la salle, je parle sous son regard. Et Serge Tarasenko disait, pour créer ce que je suis, le corps de l'homme que je suis, la connexion entre l'œil et le cerveau, entre le sens de l'équilibre et mes pieds, etc. Tout cela, pour chaque détail, le hasard voudrait que vous preniez un jeu de 52 cartes, que vous lanciez en l'air, et que pour chaque élément qui se connecte avec l'autre pour que ça fonctionne. Et il y en a des éléments. Il dit, c'est comme si ce jeu de cartes, vous le lanciez en l'air et que pour chaque élément, vous attendiez à ce qu'il retombe sur la table par ordre croissant et par couleur. J'ai essayé, hein. Au bout de 10 fois, j'ai arrêté. Je dis finalement, comme disait Serge Tarasenko, il n'y a pas d'autre perspective que de croire en celui qui est le Dieu créateur. Alors, est-ce que le hasard a conduit vos vies? Est-ce que vous considérez que ce que vous vivez est le fruit des circonstances et du hasard? Ou est-ce que vous croyez en un Dieu qui conduit toutes choses afin que ce qui est essentiel pour chacun de nous advienne? Moi, j'ai eu de la chance, après avoir demandé à ma femme de m'épouser pendant 4 ans ou 3 ans, par hasard, alors un hasard extraordinaire, elle s'est retrouvée au milieu de la Manche sur un bateau avec moi. Vous pensez si j'en ai profité pour lui dire « Alors, tu veux m'épouser ?» On est arrivé sur une petite île, l'Angleterre, et là, elle ne pouvait plus s'échapper. Donc et heureusement que je l'ai rencontrée par hasard, parce que sinon, qu'est-ce que je serais devenu? J'arrive même pas à penser ce que je serais devenu en tant qu'homme sans cette femme à mes côtés. Parce que Dieu conduit toutes choses. Et si tu regardes au-dessus de ton épaule, si tu regardes à chaque fois où il s'est passé quelque chose où tu te dis, heureusement que c'est arrivé pour que je sois là aujourd'hui. Alors dis-toi bien que c'est Dieu qui, à ce moment-là, t'a rencontré, comme le Samaritain. Regarde la chaise sur laquelle tu te trouves. Ce matin, cette chaise-là, tu es assis dessus parce que Dieu a conduit ta route tout au long des jours, semaines, mois et années passées. Et quand je vous regarde, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est merveilleux que Dieu nous ait rassemblés et fait ce miracle de nous rassembler ce matin. Qu'est-ce qu'il y a fallu comme temps pour que par hasard, nous en arrivions là? L'amour de Dieu est autre chose que le hasard. Alors, il est dit dans ce texte que le sacrificateur qui passe là vit cet homme. Il vit cet homme, le Lévite aussi et le Samaritain aussi. Pourquoi ces hommes de religion ont-ils réagi ainsi? On ne sait pas, on ne dit pas, il n'y a pas d'explication. Ils voient, ils s'écartent. Alors ceux qui connaissent le judaïsme savent que pour respecter leurs obligations religieuses de pureté, ils ont peut-être voulu préserver leur situation d'un homme qui était proche de la mort et qui les rendrait impurs. En ce sens, on pourrait dire que leur souci de pureté rituelle a été plus fort que leur solidarité pour celui qui souffrait. Mais alors, quand on voit cette réaction de ces hommes, que dire de l'amour de Christ, Fils de Dieu? De la même nature que le Père et l'Esprit Saint, il accepta de quitter non seulement son ciel de gloire, mais également la sainteté qui était la sienne, pour étendre sa main et me toucher et me rencontrer. C'est cela qu'il a accepté. Moi, l'Éternel, dit Dieu à son Messie, dans Ésaïe, plusieurs centaines d'années avant que Jésus ne vienne, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, c'est-à-dire nous, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Voilà, dit Dieu, ce qu'il dit à son Messie et à son Fils. Voilà ce à quoi je te destine. Et pour cela, tu devras quitter mon ciel de gloire. Tu devras descendre sur la terre au milieu des hommes, de la violence, du péché, de la haine. Voilà quelle est ta mission. il est dit du Samaritain qu'il vit cet homme et qu'il en eut compassion. Vous savez quoi? En 1972, quand je suis rentré dans une église pour aller rencontrer des jeunes dans un groupe de jeunes, j'ai entendu parler du Seigneur. J'ai un pin's ici. Vous le voyez? Ben, levez-vous si vous ne voyez pas. C'est le pin's avec, je dirais, la Bible, la colombe et la croix. Et il m'a été... Il ne m'a pas été donné, il m'a été vendu. Par le pasteur qui m'a accueilli quand j'avais 15 ans, au mois d'avril 1972, c'était lui qui animait le groupe de jeunes. Et puis je me suis converti, et puis il m'a donné le baptême. Et pour la mission, l'œuvre missionnaire, il vendait des pins comme ça. Je le porte encore aujourd'hui. Parce que ce hasard qui m'a fait pousser ces portes m'a fait rencontrer Christ. Et quand rencontré Christ, j'ai vu le Fils de Dieu porter son regard depuis le haut des cieux sur moi, me voir tel que j'étais et avoir compassion de moi. Il a eu compassion de moi. Et je peux vous dire que mon regard sur moi, il était loin d'être un regard de compassion. J'étais à un âge où la seule chose qui m'intéressait, c'est de me dire comment je peux terminer cette vie le plus vite possible. Et la compassion de Dieu, la main de Christ sur ma vie, a fait que, quelques mois après, j'ai accepté d'être guéri de ce qu'il y avait de plus profondément blessé en moi et meurtri. Le Samaritain fut touché de compassion. Toujours dans le livre d'Ésaïe, Dieu parlant aux hommes dit « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Je m'étais écarté de toi à cause de ce que tu étais, de ce que tu faisais, de tes choix de vie. » Ok. Mais, avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. J'aurai compassion de toi. S'il y a ce matin parmi nous quelqu'un qui se dit « Mais je ne vaux rien, je ne suis rien, ou je vais continuer ma route telle que je peux. » Dieu dit « Mais j'ai pour toi un amour éternel. J'ai compassion de toi, là, maintenant. Et je suis ton Rédempteur, celui qui te rachète et qui t'aime. » Voir, mais voir avec compassion. Il y a plein d'hommes et de femmes qui voient, hein, mais qui n'ont pas compassion pour autant, ou qui restent des techniciens qui voient. Moi, quand j'écoute le journal télévisé et que j'écoute bon nombre de responsables politiques dans notre monde, qu'ils soient en France ou ailleurs, je dis, mais ils voient. Ah, ils voient les choses. Ils voient les choses. Mais est-ce qu'ils sont émus de compassion pour ce monde? Est-ce que c'est cela qui fonde leur action? Les deux premiers à passer dans ce récit, par hasard, eh bien, ils prennent l'autre côté de la route. Hein, ils voient bien l'autre. Mais, alors, c'est Martin Luther King. J'aime beaucoup, notamment dans son livre « La force d'aimer », qui parlant de ces deux personnages qui s'écartent, qui passent outre, il dit, bah, ouais, mais peut-être. Soyons pas trop... avec un jugement trop défavorable pour ce sacrificateur et ce lévite. Après tout, on ne sait pas. Peut-être qu'ils étaient en route pour une assemblée de l'association pour l'amélioration de la route de Jéricho. Peut-être. Et en ce cas-là, on voit bien qu'il y avait là quelque chose d'important. Il ne suffit pas de secourir celui qui a été maltraité, mais c'est important de travailler à mettre en place des moyens pour sécuriser cette route. Non ? Vous ne pensez pas ? En France, c'est génial, vous savez. Quand on a un problème, on fait une commission. Il faut qu'on en parle. Le problème reste, hein, mais c'est fou dans ma vie professionnelle le nombre de commissions qu'on a fait. Oh là 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 là! avec des le clu, le clan, le clude, le ceci, le ça. Toutes les lettres de l'alphabet y sont passées, sauf peut-être le Z et le X, je ne sais pas. Mais en tout cas, toutes les lettres pour définir une réunion, une commission. Et puis, dans notre monde politique, c'est la même chose. Oh, on va faire une commission, on va traiter ce problème. Ben, je suis sûr qu'il y en a qui, dans leur travail, ont vécu la même chose. Là, je suis en train de... Je suis en train de décourager les jeunes qui sont aux études, qui disent « Ah bon, c'est ça le travail ?» Il y a un problème, on fait une commission. Et puis on en parle. Puis parfois, on se dit « Tiens, est-ce que ça a porté du fruit ?» C'était, je crois, en 2000. Est-ce que vous savez que l'an 2000 en France a été déclaré année de quelque chose ? Parce que c'était l'aube d'un nouveau millénaire. Et donc, en France, on a essayé, voilà, 2000, c'est l'année de... Ah ben voilà, bravo. Ah, je vois, j'ai que des citoyens ce matin dans l'Assemblée. C'était, l'an 2000 a été déclaré année de la fraternité. Waouh. Ben heureusement qu'il y a eu ça, hein. Non, vous ne pensez pas ? Heureusement qu'aujourd'hui, on en goûte les fruits. Laissez-moi réfléchir. Peut-être pas encore. Mais bon, il y a des arbres, vous savez, quand vous les plantez, il faut plusieurs années avant que ça porte des fruits. Hein. Mais 2000, c'était quand même l'année de la fraternité. Ouais, ouais, ouais. Il vit cet homme et il en eut compassion. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti le regard de Dieu sur votre vie, un regard de compassion. Cette semaine, j'ai vécu un petit moment particulier. Ce n'est pas un témoignage, ça. C'est vraiment, je me disais, tiens, quand je travaillais sur ce regard de compassion, je me dis, dans ma vie, est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu un regard de compassion qui a changé mon existence ? Pas forcément des chrétiens, hein. Et la première, alors qui me vient tout de suite, c'est une institutrice. J'étais placé par la DAS dans un petit village de, je ne sais pas si on était 150 habitants, c'est vous dire si c'était une grande ville, pas Jéricho, mais presque. Et dans ce petit village, il y avait une salle de classe. Et dans la salle de classe, il y avait tous les nouveaux de la maternelle jusqu'au CM2. C'est vous dire si la salle de classe était grande. On était bien 17-18. Entre la maternelle, ça. Et dans ma classe, moi, on était 6. Et quand je suis arrivé, comme j'étais placé en famille d'accueil et pas très bien, bah, j'étais, comme j'ai dit à ma mère quand elle est venue me voir 3-4 mois plus tard dans cette famille d'accueil, elle m'a dit, alors, et l'école, ça va ? J'ai dit, oh, bah oui. Ah bon, ouais, c'est... Et t'as eu les résultats ? J'ai dit, oh, oui. Pas de problème, hein. J'ai eu les résultats, ça va bien. Elle m'a dit, ah bon, et t'es combien dans la classe ? « Oh ben, je suis sixième. » Oh, ma mère a été fière. Elle est allée voir la mère nourricière, puis elle a dit, « Oh, ben, finalement, il n'est pas si traumatisé par le placement que ça. » Elle dit, « Quand même, il a eu ce classement sixième dans sa classe. » Et puis la mère nourricière a vendu la mèche. Elle a dit, « Oui, mais dans la classe, ils sont six. » Alors... Mais l'institutrice était Madame Mandeville. C'est une des rares dont je me rappelle. Et Madame Mandeville, dans ma classe à moi, c'était le CM1, je crois, il y avait son fils. Et à un moment donné, j'ai travaillé parce que son regard sur moi était plein de valorisation. Elle me regardait et en me regardant, elle me faisait comprendre que j'avais de la valeur. Et ça a tellement bien marché que j'ai monté, je suis devenu 5e, 4e, 3e, 2e. Puis à un moment donné, le premier de la classe, des 6, c'était son fils. Eh bien, à un moment donné, on a vérifié nos moyennes. Et son fils semblait être devant moi pour un dixième de point sur 2-3 mois. Et puis Madame Mandeville a dit, ça me paraît étrange, je ne suis pas sûr que ce soit juste. Refaites les calculs. On a refait le calcul et je suis arrivé premier. C'est pas tant le fait d'être arrivé premier qui m'a fait du bien. C'est que cette femme n'a pas pris en compte le fait que son fils était le premier, qu'ayant le sentiment d'une erreur, elle a dit, Jean-Marc mérite que l'on revérifie cela. Et quand elle l'a vérifié, qu'elle a vu que c'était juste, j'ai eu le droit, j'ai eu trois livres, je me rappelle, il y en a un, c'était un très grand livre de Ivan Noé. Donc, j'ai lu tout l'été mon livre d'Ivan Noé, mais aujourd'hui, je peux dire que cette femme-là, elle m'a regardé, son regard sur moi a été un regard véritablement d'amour désintéressé, de compassion, pas de pitié, de compassion, c'est autre chose. La pitié, c'est quand on regarde d'en haut vers le bas, la compassion, c'est quand on regarde au même niveau. Avoir compassion de l'autre, c'est considérer l'autre comme étant mon égal. Ouais. Ah, vous savez quoi ? Cette femme-là, elle m'a guéri durablement. Et ça a été certainement, non pas un hasard, mais une femme que je considère aujourd'hui comme ayant été posée sur ma route par Dieu pour guérir ce qui avait besoin de l'être. Et quelques années après, je dirais presque 8 ans après, j'ai rencontré Christ. Et vous savez quoi ? J'ai vu le même regard. C'est ce même regard qui a touché ma vie. Et ça a transformé mon existence. Et vous ? Et vous ? Est-ce que vous avez vu le regard de Dieu sur votre vie ? Guérir au plus profond de vous ce qui avait été blessé, meurtri. Pas seulement du fait du péché, mais aussi du fait des parcours de vie, des rencontres faites, des blessures occasionnées. Il fut touché de compassion. Et je vous dis que Dieu manifeste sa compassion. Et que Christ, quand je dis que la compassion, ce n'est pas quelque chose qui descend d'en haut comme la pitié, j'ai pitié de toi. J'ai un SDF avec lequel j'ai travaillé pendant des années et je crois que nous sommes devenus amis. Je le crois profondément. Et ça a changé notre relation au moment où je ne l'ai pas vu comme quelqu'un d'en haut dont je m'occupais en bas, mais comme quelqu'un qui était mon égal. C'était un SDF, il n'a jamais cessé d'être vraiment SDF dans sa manière d'être. Mais on est devenus amis. De la même manière que Christ est descendu du ciel, a marché au milieu des hommes pour dire « Je veux te regarder à hauteur de regard, toi, tel que tu es, et j'aurai compassion de toi. » Il s'approcha, il dit du Samaritain, il versa de l'huile et du vin. Il s'approcha, ça veut dire que quelque part, il y a un élément de son corps qui s'est mis en route ou en place. Ce n'est pas sa main, ce n'est pas ses oreilles, ce n'est pas son regard, ce sont ses pieds. Ses pieds, j'ai envie de dire que les pieds de Christ sont des pieds qui parlent. C'est-à-dire que le fait d'être venu marcher sur notre terre, de venir à notre rencontre, c'est une manière de dire « Je m'engage dans une relation avec toi ». Même si Christ aujourd'hui est assis à la droite du Père, mais le fait qu'il soit venu sur cette terre pour marcher au milieu de nous, c'est de dire « Tu vois, je marche à côté de toi, je viens vers toi, je m'approche de toi ». Et Christ est manifestement le Fils de Dieu qui aujourd'hui me dit « Je m'approche de toi toujours et encore ». Je veux venir vers toi. Je veux me faire proche de toi. Je veux me mettre en situation de t'aider. Puis ce sont ses mains du Samaritain qui passent à l'action. Il prend de l'huile, il se retrousse les manches. Et je dirais quelque part, excusez-moi, mais s'il y en a un qui s'est retroussé les manches pour que ma vie soit touchée, c'est bien Christ. Il est allé jusqu'à la croix. On a eu un groupe œcuménique que moi j'ai trouvé très 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 riche cette semaine, où le pasteur de l'église réformée, c'était une provision que j'avais faite, a expliqué quels étaient les textes qui étaient fondateurs aujourd'hui pour l'église EPUDF. Et puis les catholiques feront de même, et puis j'allais dire Michel fera l'autre, non, on fera ensemble. Mais quelles sont les paroles ? Et on a eu vraiment des paroles tirées de l'Écriture, et notamment de l'Épître aux Romains, qui est certainement l'épître qui a généré l'émergence du protestantisme au XVIe siècle, et qui est centré sur Christ a tout accompli, afin que par la foi, celui qui croit en lui soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Voilà, il s'est retroussé les manches. Ça n'a pas été facile. On pense à la nuit de Gethsémané quand il était là en disant, mais est-ce que cette coupe peut s'éloigner de mes lèvres? Mais ta volonté, Père, et non pas la mienne. Ses mains. Alors peut-être que nous aussi, on a se retroussé les manches. Qu'est-ce qu'on fait pour le royaume de Dieu? Ce qu'il est, est-ce que nous ne devons pas l'être nous aussi? Est-ce que nos pieds ne sont pas appelés à nous approcher de ceux qui sont peut-être dans cette souffrance? La souffrance est la plus grande et la première, c'est est-ce que l'autre que tu rencontres est sauvé pour l'éternité? S'il ne l'est pas, il est donc en souffrance. Si l'évangile est vrai, alors celui qui ne pose pas sa foi en Christ, il est véritablement en souffrance. Et puis, le Samaritain met aussi ses biens au service du blessé. Il donnera à la fois sa monture pour porter le blessé. Et puis c'est vrai que c'est aussi ce que Christ a fait. Au début de notre rencontre avec lui, on était dans un tel état. Est-ce que vous vous souvenez de l'état où vous étiez quand vous avez rencontré le Christ? Est-ce qu'il ne vous a pas porté pendant des jours, des semaines, parfois des mois, voire des années, pour que vous puissiez récupérer, vous tenir à nouveau debout? Est-ce que ce n'est pas ça qu'il a fait pour toi, pour moi? Et puis ensuite, quand il le dépose chez l'aubergiste, il donne 2 deniers. Ça représente à peu près le salaire de 3 journées de travail. Donc, une semaine, 2 semaines de salaire. Voilà, je te donne ça. Et puis, j'aime beaucoup cette formule. Quand je reviendrai, je te donnerai ce que tu auras dépensé en plus. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce Samaritain, s'il est aussi une image de Christ, c'est Christ qui dit, bon, allez, tu es dans un sale état, je vais te confier à l'aubergiste. Est-ce que c'est l'Église? Peut-être. Mais en tout cas, je vais te confier, et puis il va te remettre sur pied. Et puis, ouais, je vais te déposer quand même quelque chose qui va t'aider à aller mieux, et qui, pendant le temps que je ne serai pas là. Je vous enverrai le Saint-Esprit afin qu'il vous conduise dans toute la vérité. Moi, j'ai presque l'impression que c'est ça, les 2 deniers qui sont donnés à l'Église, le Saint-Esprit pour prendre soin. Et puis surtout, et là, je regarde toujours ce coin-là et cette chaise-là quand je dis ça, mais parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à Laurent. Laurent qui disait, il revient bientôt. Il a tellement dit, répété, c'était quelque chose qu'il martelait. Un peu comme le Samaritain. Quand je vais revenir, voilà, je te donnerai la différence. Parce que je vais revenir. Et c'est aussi une certitude dans cette parabole. Le Christ reviendra pour accomplir sa volonté. Et nous qui avons été pris, relevés, eh bien, il nous emmènera avec lui. Et le Saint-Esprit, dans cet instant, il est là pour nous guérir. Alors voilà un petit peu des pensées que je voulais vous partager. Et puis vous savez que ça a commencé ce récit par « Bah oui, mais alors, c'est qui mon prochain ?» Il l'a peut-être dit peut-être différemment, hein. C'est un docteur de la loi. « Oui, mais enfin, quel est mon prochain ?» hein? Vous avez vu qu'à la fin du récit, Jésus dit « Mais au fait, à ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme tombé entre les mains des voleurs ?» Et le questionneur indélicat a dû répondre lui-même, le prochain de celui qui était blessé, c'est celui qui a été bon avec lui. Ok. Ça veut dire que quelque part, il a inversé la réponse. C'est qui mon prochain ? Non, la question, c'est pas ça, c'est pas qui est ton prochain ? Tu es le prochain de qui? Par ton attitude, par ta foi, par ta vie. Tu es le prochain de qui ? Et le prochain, c'est le mot grec qui est donné, c'est en fait le voisin, celui qui est... Par exemple, il y a une sœur, ton prochain, c'est ton voisin. Ton prochain, c'est ta voisine. Ça commence là. Il y a parfois des gens qui me disent « Oh, je suis désolé, ma mère m'appelle au téléphone, je suis désolé, je ne pourrais pas être à l'église dimanche parce que je suis en famille, etc. » Et je crois que ça m'a été dit une fois de ce côté-là, mais j'ai encore eu ça il n'y a pas longtemps. Et je dis « Mais il ne faut pas être désolé, parce que l'église, c'est aussi ma maison. Ma maison, c'est l'église. Être avec mon prochain, mon fils, ma fille, ceux qui sont là, c'est aussi là où je suis en église. Qui est ton prochain ? Tu es le prochain de qui ? C'est la bonne question. Tu es le prochain. » C'était vendredi, je suis allé au Leclerc. J'ai plus de vélo, donc j'ai dû y aller en voiture. La flemme d'y aller à pied. Puis trop vieux aussi. Et donc, je suis allé en voiture. Et puis c'était le lendemain de la tempête, vous savez. Les poubelles avaient volé, etc. Nos jardins étaient dans un état. Et puis j'arrive juste au rond-point du Leclerc et là je vois une petite dame âgée, toute menue, grelottante de froid, à 9h du matin, avec le vent encore qui était là, en chemise de nuit, etc. Avec le fichu sur la tête, vraiment une caricature, mais vraiment essayer de tirer sa poubelle pour la rentrer chez elle. Ému de compassion, je me suis arrêté. Et j'ai voulu être son prochain. Bon, je n'applaudissais pas, hein. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Mais peut-être que nous devons nous poser cette question, est-ce que je suis ton prochain ? Y compris dans notre couple. C'est important, parce que, voilà, la vieille dame, j'ai été son prochain. Après, il paraît qu'il y avait ma femme à la maison, mais je ne me suis pas très bien rendu compte. Ouais, est-ce que ce n'est pas souvent ça ? Est-ce que je suis le prochain de celui qui est vraiment le plus proche de moi ? Alors, nous avons comme un texte qui, Martin Luther King disait, le Samaritain représente la conscience de l'humanité et à plus forte raison la conscience de tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Veillons à être le prochain de celui que Dieu place sur notre route. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment nous placer sous ton regard. Tu as été ce Samaritain qui est venu vers nous, qui a touché nos vies, qui a guéri notre vie. Tel tu es, tel je veux être dans ma vie au quotidien. Donne-moi d'avoir cette même attitude, ce même regard de compassion, ces mêmes pieds qui s'approchent et ces mêmes mains qui répandent et l'huile et le vin pour guérir, purifier, aimer. L'Église ne peut pas être l'Église si elle n'est pas habitée par toi. Elle ne peut pas être habitée par toi si tu n'habites pas en nous. Seigneur, que le don de ton esprit nous aide à devenir ce que tu es. Amen.